Antoine Lee, rendez-vous, place du marché.
Est-ce que la Vierge Marie, qui surplombe la ville d'Hayange, a bien veillé sur la vallée de la Fensch?
Je trouve pas, non. Elle n'a pas su ni veiller sur les mineurs, ni sur les hauts fourneaux.
Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle étape de notre Tour de France. Hier, Aurélie Sfèze était aux Aizis en Dordogne. Aujourd'hui, nous sommes à Hayange, en Moselle, à 25 km au nord de Metz. Hayange, c'est le berceau du fer. Quand on arrive dans cette commune de 15 800 habitants, impossible de ne pas les voir. Ce sont les hauts fourneaux. Ils s'imposent dans le paysage par leur hauteur et par leur masse de métal rouillé. Ça fait un choc de voir leur silhouette décharnée. Ici, on les appelle aussi les cathédrales de feu. Mais un feu qui s'est éteint il y a 7 ans. Où qu'on soit dans la ville, on aperçoit ses vestiges. Témoin d'une époque où la sidérurgie faisait vivre la ville et ses environs. Hayange est profondément marqué par cette histoire. À l'entrée de la commune, on voit ce gigantesque monument qui représente 3 mineurs portant à bout de bras des câbles d'acier sortis de terre. Dans le centre, il y a la pharmacie de la mine. Plus loin, il existe une rue de la mine. La statue de fonte de la Vierge Marie, qui surplombe Hayange, n'a rien pu faire pour sauver l'activité. Les ouvriers en lutte avaient pourtant posé à côté d'elle un panneau lumineux avec le mot SOS inscrit en rouge. Ici, sur le marché d'Hayange, tout le monde connaît cette histoire. C'est votre cas, Julien Strelzik. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes Mosellan depuis toujours.
Oui.
Vous avez entendu parler de ces hauts fourneaux toute votre enfance?
On a entendu parler, puis on passait devant forcément sur la route. Donc pour nous, c'est impressionnant quand on est petit. Et c'est le grand symbole de la vallée de la Fensch. Pour nous, Mosellans, c'est une grande fierté.
Et quand vous étiez petit, voir cette masse d'acier, ça représentait quoi pour vous? Ben ça nous, vous faisait peur ou vous aviez envie d'entrer dedans?
C'est un petit peu comme quand on va pour la première fois à Paris, on regarde la Tour Eiffel. Nous, enfants, on pouvait regarder pendant des heures. D'ailleurs, on demandait à nos parents de s'arrêter sur la route. Parce que pour nous, c'était gigantesque. Gigantesque.
Vous êtes comédien, vous êtes au Grand Est ce que Danny Boone est au Nord. Votre source d'inspiration, ce sont les traditions locales et notamment le plat, le patois mosellan. Comment on dit ça va?
On dit comment que c'est, ça guette?
Ça guette.
Voilà.
Ça va, je le dis bien.
On ne dit pas comment ça va, on dit comment que c'est et ça guette, ça veut dire est-ce que ça va, ouais.
Là, on est sur le marché d'Hayange. Alors, on voit là des t-shirts à la marque au crocodile au prix imbattable de 5 euros. Il y a des militants du Parti ouvrier qui distribuent des tracts contre la fermeture de l'usine Smart à Amba, à 90 km d'ici. Il y a des pastèques énormes qui pourraient entrer dans le Guinness Book des records. Julien Strelzik, par exemple, est-ce qu'il y a des choses devant nous qui vous inspirent, qu'on pourrait nommer avec l'accent du coin?
Déjà ici, si vous commandez des fruits et des légumes, il faut absolument que vous confondiez les on et les en. C'est-à-dire que si vous commandez du poisson, il faut que vous disiez je veux du poisson.
Du poisson.
Sinon, on va pas vous comprendre. Voilà, exactement.
Du poisson.
Voilà, ouais.
Du citron.
Et des courgettes. Alors, courgettes n'existent pas chez nous. Nous, c'est soit courgettes ou alors des gourgettes.
Ah bon?
Voilà, c'est deux façons de le dire en mosellan. Des oignons, du poivron, des potimarrons. À chaque fois, c'est très important le on et le en.
Ici, on est à Hayange, mais les villes voisines s'appellent Nilvange, Ucange, Knutange, Algrange ou encore Florange. Pourquoi toutes les villes des environs finissent par Ange?
En fait, ça vient du germanisme. Hein, donc, toutes les villes finissaient par Ingen, I-N-G-E-N. Et après, en fait, ce qui s'est passé, c'est que soit on a francisé les noms de villes en mettant Ingen, on a remplacé par Ange. Donc ça, c'est la Moselle Nord, c'est là où on est aujourd'hui. Et la Moselle Est, tout ce qui est près de la frontière allemande, eux, ils ont plutôt des villes en 1, ING, Carlin, Frémin, etc. Donc ici, ouais, on a 80 villes en Ange. J'avais des sketchs là-dessus, parce qu'il y a même des villes. Il y a une ville, par exemple, qui s'appelle Putlange. Donc c'est assez impressionnant pour quelqu'un qui vient
d'un coin. C'est
original. Ouais, Putlange. Vous imaginez quel genre de sketch on peut faire sur Putlange.
Ouais, c'est très élégant, mais bon.
Ouais, c'est très élégant. Oh, je le fais subtilement.
Vous allez rester avec nous tout au long de notre émission. On parlera de l'histoire de la sidérurgie en Lorraine avec un homme qui a consacré sa vie. Nous rencontrerons des entrepreneurs qui veulent redynamiser l'économie de la vallée de la Fensch. On goûtera des chocolats d'un artisan qui veut rendre hommage à votre région. On découvrira aussi des bières locales et nous aurons l'occasion de rire grâce à vous, Julien Strelzik. Mais avant, un peu de musique avec le groupe américain Overlive qui chante Hey Hey, un titre choisi par Joe Bacca.
Too many to start on the open water. The sun motion is as you get so tired.
Écoutez France Inter, nous sommes sur le marché de Hayange en Moselle, près de Metz. C'est un grand marché qui s'étend de la grande place de l'Hôtel de Ville jusqu'aux rues alentours. Nous sommes toujours avec Julien Strelzik, vous êtes comédien humoriste. Oui. Et votre spécialité c'est le patois local. Là on s'engage dans la rue du Général de Gaulle. Comment on dit un morceau de chocolat?
Bon, on dirait, si on coupe une tablette, on dirait un ch'tuc.
Un ch'tuc.
Je dirais, donne-moi un ch'tuc de ta tablette.
Un ch'tuc de chocolat?
Ouais, ch'tuc de chocolat.
Je vous demande ça parce que dans cette rue, au numéro 1, il y a la chocolaterie Salonté de Patrick Vichard. Bonjour Patrick.
Bonjour.
Merci de nous recevoir. Vous avez installé pour nous des tables dans la rue, devant votre Salonté. Là, on est à l'intérieur, il y a des gens qui prennent,
oui, c'est le Salonté, qui prennent leur petit déjeuner à 11h. Bon, c'est tardif, mais bon, il y a du monde tout le temps qui prend le petit déjeuner.
Là, il y a plusieurs personnes, il y a 5 dames. Bonjour mesdames.
Bonjour.
Bon, on les entend pas bien parce qu'elles sont toutes masquées, c'est pas pratique pour boire le café.
La protection avant tout.
La protection avant tout. Vous avez bien raison. Vous avez bien raison de nous le rappeler. Patrick, et vous êtes avec votre épouse Anne.
Voilà.
Depuis combien de temps vous êtes ici?
Moi, ça fait 28 ans que je suis patronne et j'ai travaillé 10 ans avant avec l'ancien patron.
Et moi, ça doit faire, je crois, depuis les années 44 ou 45 ans que j'ai commencé ici.
Vous êtes du coin?
Oui, on est originaire. Bah, moi, je suis originaire d'un petit village à côté, Neufchef. Et Anne, elle est originaire d'Algroche. On est des enfants de la vallée, quoi.
À l'heure de l'apéro, on vous retrouvera. Vous nous ferez goûter un chocolat que vous avez créé en hommage à la sidérurgie. On va justement parler de sidérurgie. À tout à l'heure, à tout à l'heure. On va justement parler de sidérurgie et des hauts fourneaux avec un homme qui y a consacré sa vie. C'est vous, Rudy Cristani. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes entré à l'usine à l'âge de 15 ans et vous en êtes sorti...
14 ans.
À 14 ans, il faut être précis, vous avez raison, c'est encore plus
jeune. Sorte d'apprentissage.
Et vous en êtes sorti à l'âge de 60 ans. Donc, en tout, 46 ans donnés à la sidérurgie.
58 ans.
58 ans.
Carrière longue.
Dans quelles circonstances vous étiez rentré à l'usine?
C'était pas très compliqué à l'époque, puisque on rentrait à l'usine comme si on rentrait, si vous voulez, dans un bureau de tabac. On pouvait être embauché directement. Mon père me disait, tu veux pas travailler à l'école, mais tu vas à l'usine. C'était un peu comme ça. Puisqu'il y avait tellement de sidérurgie, qu'il y avait tellement d'emplois, c'était incroyable.
C'était une bonne nouvelle lorsque votre père vous a dit ça, ou c'est une punition?
Non, c'était pas une punition. Je voulais pas bosser à l'école. Après, j'ai regretté, bien sûr, mais bon, je me suis dit non. Et voilà, c'est comme ça, et j'ai commencé ma carrière comme ça.
Et durant toute votre longue carrière, quel poste avez-vous occupé?
Eh ben, j'ai occupé un poste à la bascule, à la scierie de la SMK à l'époque, la société métallurgique de Knutange. J'ai travaillé à la bascule et après j'ai évolué.
C'est quoi la bascule?
Ça pesait les lagots. Les lagots d'acier étaient pesés dans une bascule et allaient être transférés, si vous voulez, dans les fourpites. On appelait ça les fourpites.
Les lagots d'acier pouvaient peser quel poids?
15 tonnes.
15 tonnes, ah oui, d'accord. Ce sont de gros
lagots d'acier. Chauds, bouillants, chauds, rouges.
Julien Strelzik, votre histoire familiale est aussi liée à la sidérurgie?
J'ai un arrière-grand-père qui travaillait dans la mine de fer qu'on appelait Angevillers, mais l'entrée était à Algrange. Donc il habitait pile devant l'entrée. Et ma grand-mère habite encore cet appartement. Et puis j'ai un autre grand-père aussi d'origine polonaise, puisque c'était les Polonais et les Italiens qui étaient venus travailler ici. Strelzik, ouais, c'est d'origine polonaise. Et j'ai un grand-père qui travaillait à la Solac.
C'est quoi la Solac?
La Solac, sidérurgie. Donc c'est pour nous, c'est aussi un des grands symboles, la Solac de la région.
Rudy Crestani, vous êtes en quelque sorte la mémoire de la sidérurgie en Moselle. Dites-nous combien de sidérurgistes et de hauts fourneaux il y a eu dans la région pendant les plus belles heures.
Dans les années 70, il y avait 26 hauts fourneaux sur les trois vallées. C'est-à-dire la vallée de la Chière, la vallée de la Fenche et la vallée de l'Orne. Et il y a eu d'autres hauts fourneaux encore près de Nancy à Pont-à-Mousson.
Et combien de
ça faisait de... J'ai pas terminé. Vas-y. L'acier de Pont-à-Mousson, c'est ce qui a permis la construction de la Tour Eiffel. Tour Eiffel, elle est à nous.
Elle est à tout le monde. Elle est à tous les Français. On va dire ça comme ça. Mais c'est bien votre chauvinisme. Vous avez bien raison. Et il y avait combien de sidérurgistes?
Il y avait, dans les années 70, on était plus de 50 000 sidérurgistes.
Et là, il y a combien de sidérurgistes et combien de hauts fourneaux?
Plus de hauts fourneaux.
Plus aucun.
Et moins de 10 000 sidérurgistes en Lorraine.
Vous vous êtes beaucoup battu pour sauvegarder l'activité et les emplois.
Bien sûr.
Vous êtes engagé dans le syndicalisme à la CFDT en 1967.
Oui.
L'un de vos compagnons de route, pour ne pas dire frère de lutte, c'est Édouard Martin.
Tout à fait.
Personnage médiatique connu pour ses coups de gueule. Justement, on a une surprise pour vous, Rudy.
D'accord.
Édouard Martin n'est pas à Yange aujourd'hui, mais il est avec nous en ligne. Bonjour Édouard Martin.
Bonjour.
Rudy vous entend.
Salut Édouard.
Bonjour frérot, comment tu vas?
Ça va mon frère, ça va.
Vous connaissez
ça fait
depuis combien de temps?
T'entendre.
Des années.
Vous l'avez connu à quel âge?
Très jeune, quand il était militant à Solac et moi j'étais militant à Gandrange.
Vous aviez quel âge Édouard Martin lorsque vous avez connu Rudy Crestani?
Moi je devais avoir 25 ans, 26 ans.
Ouais, un peu moins Édouard.
Peut-être un peu moins, oui.
Oui Édouard.
Vous avez tout traversé ensemble.
Oui.
De belles heures et des heures
oui,
plus difficiles.
Mais pas dans les mêmes usines. Lui était à Solac et moi j'étais à Gandrange.
Il y a eu un tournant, c'est en 2008. ArcelorMittal annonce la fermeture de l'acierie de Gandrange. Oui. 571 emplois supprimés.
C'est là que je travaillais.
En 2012, alors que le groupe a annoncé cette fois la fermeture des hauts fourneaux d'Ayange,
oui.
On est en pleine campagne présidentielle en 2012.
Oui.
Le candidat François Hollande se rend sur le site. Là, vous soufflez, vous levez les yeux au ciel, on comprendra pourquoi. François Hollande monte sur le toit d'une camionnette, il saisit le micro et voilà ce qu'il déclare devant les ouvriers, on l'écoute.
Je viens donc devant vous prendre des engagements. Le premier engagement, c'est de faire en sorte que nous défendions notre filière d'excellence, la filière sidérurgique. Je suis venu aussi vous dire que quand une grande firme ne veut plus une unité de production, mais ne veut pas non plus la céder, nous en ferions obligation pour que des repreneurs viennent et puissent donner une activité supplémentaire.
C'était le 24 février 2012.
Oui.
Édouard Martin, vous étiez aux premières loges, puisque vous étiez juste à la droite de François Hollande quand il fait cette déclaration. Avec le recul, qu'est-ce que vous vous dites 8 ans après, Édouard Martin?
Je me dis qu'en regardant notre histoire commune, l'histoire de la Lorraine, combien de présidents sont venus nous voir et combien de présidents ont trahi leur parole. Et on peut remonter à Giscard d'Estaing en passant par Mitterrand, par Chirac, Sarkozy et Hollande. Et donc, évidemment, on avait cet espoir, parce que l'annonce de fermeture avait été faite, et on avait cet espoir de dire que les choses pouvaient changer. Mais on avait toujours au fond de nous-mêmes, en mémoire, toutes les promesses trahies. Donc on savait qu'on ne pouvait compter que sur nous-mêmes. Et c'est ce que nous avons essayé de faire, même arrivé au pouvoir, François Hollande, malheureusement, a baissé pavillon devant la multinationale qui est Mittal.
On entend bien les ouvriers qui sont devant François Hollande, on entend leur cri d'espoir. Vous y avez cru?
Ben, tout le monde y a cru, parce que je vous dis, ça faisait plusieurs mois que nous étions dans l'incertitude, dans la peur de voir les usines fermées, dans la peur d'être licenciés. On avait un président à l'époque, Nicolas Sarkozy, qui lui disait, ben, c'est comme ça, c'est pas, enfin, il lui disait pas complètement comme ça, mais il nous faisait entendre, ben, c'est l'économie, c'est comme ça, on peut rien y faire, et il donnait pas cette envie de se battre. Et puis vous avez un candidat qui vient nous dire, bah, si je suis président, bah, vous pouvez compter sur moi, je vais, moi, vous aider et je vais sauver la sidérurgie. Alors évidemment, il y a ce regain d'espoir, mais très vite, on a déchanté.
Votre point de vue, Rudy Crestani?
Les promesses qui n'ont pas été tenues, mais il n'y a pas eu que lui, il y a eu après Hérault, qui est venu.
Jean-Marc
Hérault est venu dans notre village, le village gaulois qu'on avait fait, hein, tu te rappelles Édouard? où il était venu signer une charte, où il s'était engagé. Et en novembre, il annonce à l'Assemblée nationale la fin des hauts fourneaux, d'une certaine façon. C'était une forme de trahison terrible.
Vous avez continué la lutte.
On a continué, bien sûr.
2012, avec la marche de l'acier.
La marche de l'acier, oui. C'était un moment très, très important.
Vous avez rejoint la Moselle.
La Moselle, à pied.
Moi, jusqu'à la capitale.
Moi, je n'ai pas marché. Je m'occupais de l'intendance dans la camionnette où François Hollande a séjourné un certain temps.
Et moi,
je m'occupais de tout ce qui était l'intendance.
C'est un moment fort.
Parce qu'on ne part pas à l'armée sans fusil. Il faut, vous comprenez ce que je veux dire. Il faut de la nourriture, il faut de l'eau. Voilà,
c'était ça. Mais vous espériez quoi avec cette marche de l'acier? Est-ce que ce n'est pas des combats en vain?
Je ne peux pas dire que ça a été un combat en vain. La France nous a regardés. Les médias nous ont suivis. Ça a été incroyable. Ça a été quand même incroyable. Tout au long de la route, entre ici et Paris, les gens venaient vers nous. Les gens venaient vers nous, nous apportaient à manger, nous apportaient même de l'argent dans notre caisse. Je veux dire, il y avait un élan incroyable.
Mais c'est formidable. Mais au bout du compte, l'usine, elle a fermé. Le fourneau, elle a fermé. Et on a l'impression que malgré
mais il reste
votre
quand même
énergie,
quelque chose de
tout,
ça.
Tout votre courage,
oui.
Vous pouvez rien faire. La machine
vous
écrase.
Oui, vous pouvez appeler ça une forme d'impuissance. Okay.
C'est le cas ou pas?
Mais, Quelque part, oui. Mais il reste quand même ça. Et c'est ça qui est important. Parce qu'on a quand même fait ce combat-là. On l'a fait avec des potes. On était 17 ou 18. Hein, avec Edouard, bien sûr. Et ben, moi, je pense que ce que j'ai vécu là en tant que retraité, parce que j'étais retraité. Mais moi, franchement, ça m'a permis encore de me renforcer en tant qu'homme et en tant que militant.
Edouard Martin, est-ce que la fatalité est plus forte que tout, plus forte que le combat que vous avez pu mener, que les ouvriers peuvent mener?
Vous savez, ils nous auront enlevé les hauts fourneaux, ils les auront éteints, ils nous auront jamais enlevé la dignité. Je pense qu'en Lorraine, nous sommes des personnes dignes. Le combat, c'est pas un vain mot. Alors même si effectivement nous n'avons pas gagné cette bataille-là face à une multinationale, parce qu'en réalité c'est pas la multinationale qui est forte, ce sont nos élus qui sont faibles. Ils viennent en tant que candidats nous dire regardez nos muscles, regardez comment on va être fort. Puis une fois qu'ils sont au pouvoir, ils ont peur de leur ombre. Mais si on regarde depuis le départ de la marche jusqu'à l'arrivée, effectivement, les hauts fourneaux ont fermé, vous avez raison, on n'a pas gagné cette bataille-là. Mais en réalité, le reste de l'usine, parce que il reste encore plus de 2000 travailleurs à Florange, hein, eh bien, nous avons réussi à obtenir qu'il y ait zéro licenciement et nous avons réussi à obtenir plus de 300 millions d'euros d'investissement, alors qu'au départ, Mittal avait dit « je ne mettrai pas un euro à l'usine de Florange ». Donc, on peut au moins nous laisser crédit que cette bataille-là, c'est notre victoire.
Oui, les emplois ont été requalifiés. Vous, Edouard Martin, vous avez tenté l'expérience en politique au Parlement européen. Aujourd'hui, c'est de l'histoire ancienne. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous devenez? Qu'est-ce que vous faites?
Aujourd'hui, je suis chômeur, parce que vous savez que la politique, malheureusement, elle est faite pour les gens du public, parce que nous n'avons pas, nous, cette possibilité de faire un mandat et de revenir dans notre ancien emploi. Donc, quand j'ai été élu, j'ai dû quitter l'entreprise. Et puis, comme j'ai pas l'âge de la retraite, et j'avais dit que je ne ferai qu'un seul mandat, et je n'ai pas fait un deuxième mandat, parce que c'est dans mes convictions, aujourd'hui, je suis à la recherche d'un emploi. Mais mon expérience au Parlement européen, même si, évidemment, ça n'a jamais fait la une des médias, elle a apporté ses fruits, parce que regardez aujourd'hui le débat actuel. Nous parlons de comment réduire les émissions de CO2 et comment nous faisons en sorte qu'il y ait une concurrence loyale avec l'acier chinois. Et pour ça, on va mettre en place aux frontières de l'Europe des mesures de protection de l'acier européen et de l'acier notamment français. Moi, j'avais plaidé pour ça. J'ai fait voter ce texte-là. Alors évidemment, il revient au goût du jour 5 ans après. Mais ça, je veux dire que c'est le combat que moi, j'ai mené au Parlement européen. Donc tout ça pour vous dire que lorsqu'un ouvrier rentre en politique et il sait pourquoi il va et il sait mener les combats, on peut gagner. Et ça, moi, je peux dire que ce combat-là, je l'ai pas gagné tout seul, évidemment, avec mes copains de la vallée de la Fench, avec les copains sidérurgistes français et européens, mais nous avons gagné ce combat-là.
Je crois que on vous a proposé de faire des stages de reconversion. On vous a proposé quoi?
On m'a proposé Pôle emploi, on m'a proposé un stage en restauration.
Et aussi un chauffeur de bus.
Et chauffeur de bus, oui, effectivement. Mais chauffeur de bus, vous savez, il n'y a pas de sous-métier. J'y pense sérieusement. Ça fait maintenant un an que je suis au chômage. Il y a une formation qui va démarrer certainement en octobre, en novembre. Et comme je sais que on cherche pas mal de chauffeurs de bus, je vais m'inscrire parce que moi j'ai une famille à nourrir et j'ai besoin de rentrer un salaire. Et voilà. Donc oui, effectivement. Mais ça m'a fait rire parce qu'on me proposait un stage en restauration. J'ai 57 ans et demi, je dis pas que je peux pas le faire, mais voilà, je me vois mal servir des plateaux à mon âge et courir à droite à gauche. Mais chauffeur de bus, je me suis inscrit pour cette formation, effectivement.
Édouard Martin, Rudy Crestani, vous avez fait partie d'une génération qui a été marquée par l'histoire de la sidérurgie en Moselle, on l'a entendu. Hier, j'ai rencontré un jeune de 21 ans, Emeric Zviatokanovet. Il habite en face des hauts fourneaux d'Ayange depuis qu'il est petit. Je lui ai demandé ce que ça fait d'avoir grandi en face de ces vestiges.
France Inter. Rendez-vous, place du marché.
Là, Emeric, là, donc, on est sur un terrain vague, hein, au pied de fourneaux, là, qu'on voit, là. On est vraiment pas très loin, mais là, on est bloqué par des grillages avec des barbelés, là. C'est ce que tu vois tous les matins de la fenêtre de ta chambre.
C'est ça. Quand j'ouvre mes volets le matin, le premier paysage que je vois, c'est le haut fourneau. Mais peu importe où on est dans la ville, c'est un détail très remarquable.
On voit que ça, quoi, en fait.
Ouais, c'est une montagne d'acier, c'est très impressionnant.
Toi, t'as connu la période où ces hauts fourneaux fonctionnaient. Tu voyais la flamme.
Ouais, la nuit, il faisait jour. Moi, je pouvais faire des foot devant chez moi, éclairé par la flamme, tout ça. Et j'ai connu cette période où on pouvait pas faire sécher le linge dehors à cause des poussières de minerais, les bagnoles étaient crades tout le temps. L'odeur aussi, enfin, quand tu passais, t'avais une sale odeur d'œuf pourri à un moment donné. Enfin, tous les sens remarquer que ça bossait ici.
Mais là, c'est vraiment impressionnant, c'est cette masse de métal, ces tuyaux qui s'élèvent vers le ciel, des tuyaux tout rouillés, quoi.
Notre paysage montre bien la cicatrice de notre territoire, la cicatrice sociale. Moi, j'ai appris à me faire tout petit, en fait. Déjà, à être face à un élément grand en taille, on se sent petit, mais à travers les histoires qu'on m'a racontées, les ouvriers en grève, la grève de 2012... Les combats, c'était des réels combats pour faire vivre toute une zone, la vallée de la Fench. Ça apprend à rester humble et ça calme les colères. Moi, je suis réellement fier de venir d'ici. Enfin, c'est le labeur, hein. Moi, j'ai une grande estime. Nous, c'est vraiment le pays de l'huile de coude. On bosse. Et le labeur, c'est quelque chose que je respecte énormément. Le rapport du travailleur à la machine, la force de travail, tout ça, c'est des choses que j'ai appris ici.
Décroche-toi, sans tomber, les astres peint le désastre, l'instant irréversible. Je ne suis qu'un passager, mal à l'aise ici. Pardonne-moi d'être tête en l'air. Je t'agace à me laisser aller. Mon utilité inutile. Je ne me souviens plus d'hier. Je suis dans la lune. Je suis dans la lune. Je suis dans la lune. Je suis bien. Éloigne-toi. Je suis dans la lune. Je suis dans la lune. Je suis dans la lune. Je suis bien. Éloigne-toi. We'll be right back. pas les idées claires pour l'impossible. Pardonne-moi ma tête en l'air, je m'agace à te laisser aller. Mon utilité inutile, je me souviens plus d'hier. Je suis dans la lune.
Vous êtes sur France Inter, rendez-vous Place du Marché est aujourd'hui à Hayange en Moselle. Nous sommes toujours avec Julien Strelzik, comédien, Rudy Cristani et Édouard Martin, ancien sidérurgiste. C'était Malik Djoudi qui chantait Instant Irréversible. Nous recevons maintenant deux personnes qui pensent justement que la situation économique en Moselle peut être réversible. Élodie Yannon, bonjour.
Bonjour.
William Pedrini,
bonjour. Bonjour.
Vous êtes tous les deux chefs d'entreprise d'une petite entreprise. La vôtre, Élodie, c'est Mécatour. C'est dans quel domaine vous travaillez ?
Alors, on propose à location, réparation, contrôle et vente du matériel de levage, échafaudage et équipement anti-chute.
Combien de salariés ?
7.
Vous, William Pedrini, quel secteur ? Combien de salariés ?
De la fourniture industrielle destinée aux entreprises de l'industrie ou de la sous-traitance de l'industrie et qui compose 13 salariés.
Là, on entend bien les cloches. Vous faites partie du club des CAC 140 à Hayange. De quoi s'agit-il au juste, le CAC 140? C'est quoi ce club?
Alors le CAC 140, c'est un club qu'on a créé en 2012. Au départ, on était une vingtaine d'entrepreneurs et on a décidé de se rassembler pour s'unir et essayer de se faire travailler les uns les autres et de se soutenir dans les problématiques de chacun.
Vous avez un logo.
On a un logo.
Qui est assez parlant. On voit un loup qui hurle devant les hauts fourneaux. Quel est le symbole de ce logo?
Alors le symbole, on a cherché quelque chose de parlant et représentant la vallée. Les hauts fourneaux, bien sûr, puisque l'idée de ce que représente la vallée partout en France, c'est la fermeture des hauts fourneaux. Le loup hurlant devant ces hauts fourneaux symbolise à la fois le fait de hurler à la fermeture des hauts fourneaux. On a d'ailleurs un hymne au CAC 140 qui commence sur l'air du chant des partisans par François, entends-tu impuissant les hauts fourneaux qui s'éteignent. Et on a aussi l'idée du loup dans le fait de se rassembler pour chasser en meute, parce qu'ensemble, on estime qu'on est plus fort.
Élodie Yannon, pourquoi CAC 140 ?
C'était dans l'idée de faire un pied de nez au CAC 40.
Mais pourquoi ce pied de nez ?
Alors le CAC 40, c'est ce qui représente aujourd'hui l'économie, mais une économie qu'on appellerait nous virtuelle, puisque... Ça drive un petit peu la santé d'un pays, alors que pour nous, la réelle économie se passe au niveau des TPE, des PME, et non des gens qui ne connaissent, pour ainsi dire, absolument pas les gens qui composent leurs usines ou leurs industries.
Le but, c'était de redynamiser l'économie de proximité, Élodie ?
Principalement, se réunir aussi pour être plus fort, en fait, face aux problématiques que peuvent rencontrer les entrepreneurs en général.
C'est une façon de donner une autre image de votre région qui... Voilà, est très associé aux fermetures des usines, des hauts fourneaux.
Tout à fait, qu'il y a encore des affaires qui se font sur le secteur, qu'il y a encore des entreprises qui travaillent et qui travaillent bien.
Je rappelle que vous êtes tous les deux chefs d'entreprise, que vous faites partie de ce club des CAC 140 à Hayange. De quelle façon vous vous aidez les uns les autres concrètement ?
Ça peut être directement par des affaires mutuelles. Je te passe une commande, tu m'achètes un service ou un produit. Ça peut être aussi sur du conseil. Il faut savoir que le chef d'entreprise en TPE ou PME souvent se sent très seul. Le fait de se rassembler, ça permet d'avoir un soutien, de pouvoir partager ses soucis, ses ennuis et puis pourquoi pas partager aussi sa réussite.
D'accord, donc vous conseillez de faire appel à des collègues à vous qui sont dans le besoin. Il y a une forme de solidarité entre patrons.
C'est ça, la solidarité. Si on une bêtise, vous avez besoin d'un rendez-vous avec un élu, il est probable qu'on arrive à l'obtenir. Un rendez-vous en préfecture, il est probable qu'on arrive à l'obtenir. Un conseil juridique, un conseil financier, un conseil de gestion. C'est tout des choses qui, de par l'expérience des gens qui composent le CAC 140 ou par les connaissances que tous ont à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est des choses qui peuvent rendre service.
Vous organisez aussi des tables rondes avec des thèmes très variés. Par exemple, Élodie, quel thème vous abordez? Quel type d'invité vous avez pendant ces tables rondes?
Alors, ça peut aller d'un thème vraiment très lié à l'entreprise, comme un thème un peu plus varié. On a reçu, par exemple, Julien Strelzik, qui est intervenu lors d'une réunion du CAC 140. Ça peut être aussi des politiques. Ça peut être aussi des thèmes vraiment très très liés à l'entrepreneuriat.
Julien Strelzik, pourquoi vous êtes intervenu dans le cadre de ces tables rondes du CAC 140? C'était pour leur remonter le moral?
Parce qu'ils ont fait un gros chèque. C'était même un virement. Donc
c'était combien?
C'était pratique. Non, mais c'est parce que pour nous, c'est important. Déjà, parce que j'ai mes petits bouquins, donc j'essaye de faire des soirées promotionnelles de mes petits livres sur la Moselle. Et la plupart de... Souvent, les gens disent, tu joues tellement en Moselle que tu dois être hyper connu en Moselle. Mais finalement, dans un département comme ça, on est jamais assez connu. Donc, il y en a plein qui m'ont découvert le jour-là et c'était une agréable soirée. Techniquement, on peut dire que c'était vraiment mal préparé, hein, William. On sentait qu'il connaissait pas du tout le One Man Show, mais je m'en suis sorti bien correctement.
Donc des soirées légères, mais aussi des soirées où, par exemple, vous avez invité un procureur, un ancien procureur. Pourquoi?
Ouais. Alors, ça fait partie des sujets où on va prendre. Faut pas prendre les paroles comme argent comptant. Le sujet était la mise en examen du chef d'entreprise.
Ah oui.
Il faut savoir qu'il n'y a pas que des chefs d'entreprise voyous. On peut se retrouver en examen parce qu'il y a eu un accident sur un chantier ou pour toute autre raison qui serait hors esprit voyou du chef d'entreprise.
Donc vraiment des conseils pratiques, quoi.
Voilà.
Pour accompagner toutes les situations possibles.
Parce que c'est des situations que le chef d'entreprise ne connaît pas, mis à part les professionnels de la mise en examen. Et bien évidemment, on se sent aussi seul et on ne sait pas forcément comment réagir à une telle situation.
Rudy Crestani, pensez-vous que ces deux patrons posent un regard nouveau sur la vallée de la Fench où nous sommes là, à Lyon?
C'est d'une part très atypique et innovateur.
Vous avez combattu les patrons, là c'est d'autres types de patrons.
Combattre, c'est un mot qui est quand même fort.
Ou leurs décisions.
Combattre leurs décisions, je préfère, pas l'être humain, c'est les idées je n'étais pas d'accord avec eux, c'est tout. Mais ça s'arrêtait là, il n'y avait pas de... C'est fini, le patron avec le cigare... qu'on traite de moins que rien. Non, c'est pas ça la solution. Aujourd'hui, le patron doit aussi écouter les organisations syndicales parce qu'ils ont des propositions à faire. Et ces propositions peuvent aller dans le même sens qu'eux.
Édouard Martin, vous êtes toujours en ligne avec nous. Quel est votre regard sur justement l'initiative de ces chefs d'entreprise, de petites entreprises en Moselle?
Écoutez, moi je les trouve très intéressants. D'ailleurs, si je me trompe pas, j'ai dû être invité au tout début.
Tout à fait, William Pedrini me le souffle.
Oui, on a reçu Édouard Martin. Bonjour Édouard.
Bonjour.
Et qui nous a parlé justement de sa vision de la gestion de la fin des hauts fourneaux et de même qu'on a reçu Arnaud Montebourg qui nous a parlé aussi du sujet.
Et quel est votre regard, Édouard Martin, sur l'initiative de ces chefs d'entreprise?
Alors moi, je porte un regard évidemment positif parce que voilà, vous savez, lorsqu'on s'est battu pour défendre les hauts fourneaux, on s'est aussi battu pour défendre les TPE, PME, les petites entreprises, parce qu'il faut savoir qu'un emploi industriel engendre trois autres. Et donc, lorsque les hauts fourneaux ferment, c'est pas uniquement les emplois des hauts fournistes qui disparaissent, c'est beaucoup de TPE, PME qui sont en difficulté, qui ont dû mettre la clé sous la porte. Et donc, je trouve qu'elles ont fait preuve de beaucoup d'intelligence et beaucoup de dynamisme pour essayer de dire, attendez, nous on est là, on existe. On résiste et on peut apporter des solutions et on peut être aussi effectivement un nouveau moteur économique pour la région. Donc ne pensez pas uniquement aux grosses boîtes, nous sommes là et nous avons plein d'idées et nous pouvons être effectivement aussi des pourvoyeurs d'emplois. Et donc je les encourage et je trouve que le nom qu'ils ont choisi, le CAC 140, c'est super, ça donne un peu le « là ». Et je dis toujours que de toute façon, si on regarde le tissu économique aujourd'hui, quelles sont les entreprises qui créent des emplois? Ce sont les TPE, PME, les grosses boîtes aujourd'hui, encore aujourd'hui, lorsqu'on ouvre la presse, c'est souvent pour annoncer des centaines, des milliers de suppressions d'emplois, alors que ce sont bien souvent des entreprises qui gagnent beaucoup d'argent. Lorsque Mittal décide de fermer le site de Florange, les hauts fourneaux de Florange, même s'ils sont géographiquement sur Ayange, je rappelle quand même que c'était un site qui gagnait de l'argent. Ils gagnaient de l'argent, pas suffisamment aux yeux de Mittal, mais ils gagnaient de l'argent. Donc voilà, ce sont des employeurs qui retroussent les manches, qui bossent à côté de leurs collègues, qui se battent tous les matins pour aller chercher les contrats, et parfois même certains oublient même de se payer. Donc moi je dis chapeau et je ne peux que les inciter à continuer dans cette voie.
William Pedrini, comment ça se passe pour vous la reprise après le confinement?
La reprise, c'est nous, on a maintenu un service minimum puisqu'on s'est transformé en pharmacie en vendant du gel, des masques et ce genre de choses. Je voulais juste rebondir sur rapidement sur ce que disait Edouard. Quand Rudy a combattu les patrons, en fait, c'est les mêmes patrons que nous quelque part combattons dans les grandes entités qui ne maîtrisent absolument pas l'économie locale et ce qui se passe réellement dans leur industrie. C'est le même type de profil qu'on combat aussi nous, petits patrons.
Edouard Martin, merci beaucoup d'avoir participé à notre émission. On vous souhaite merci vraiment vous. Bon courage pour la suite.
Merci à vous.
Salut Edouard.
Salut Rudy, au revoir à tout le monde.
Je te souhaite un bon courage et une bonne continuation. Tu sais que si tu as besoin de moi, je ne serai jamais bien loin.
Ouais, de toute façon, on se voit bientôt, mon frérot.
On se voit bientôt, mon pote. Salut ciao. Frérot.
À bientôt.
Au revoir.
Julien Strelzik, vous avez 38 ans. Vous aussi, quelque part, vous vous démenez pour réussir. Vous êtes aussi un chef d'entreprise dans votre carrière.
Exactement. Oui.
Est-ce que le milieu artistique est plus difficile à pénétrer quand on vient de la vallée de la Fensch?
Alors, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que dès mon début de carrière, j'ai voulu, comme tout le monde, aller à Paris. Et beaucoup m'ont demandé, mais quel va être ton nom de scène? Donc déjà, ils voulaient que je gomme Strelzik. Donc moi, ça m'a chatouillé, donc je le garde. Et d'ailleurs, mon nouveau spectacle, j'ai un médicament qui s'appelle le Strelzik. Ça fait un peu médicament. Donc j'ai conservé vraiment corps et âme. Et puis, on m'a dit aussi, fais attention, parce que si tu fais des références à la Moselle ailleurs qu'en Moselle, ça marchera pas. Et là, grosse erreur, puisque par exemple au Festival d'Avignon, quand je prends l'accent, je dis, il est quand même vachement plus joli notre accent que celui du Sud. Hein. Et les gens rigolent parce qu'on a les références de l'Allemagne, donc ça marche.
On va continuer avec vous dans quelques instants. On dégustera aussi des chocolats qu'on ne trouve qu'ici, à Hayange, et aussi de la bonne bière locale. Mais avant, on écoute Féloche qui chante Silbo.
Escalade les jardins en escalier. Sur le volcan de la balade, El Silbo perce la fumée. Et me voilà, petit géant, prêt à siffler dans le vent. Les deux, trois mots que j'ai gardés s'envolent vers toi. Comero Bonifacio.
Vous écoutez Rendez-vous Place du Marché sur France Inter. On est à Hayange, en Moselle, près de Metz, où il est l'heure de l'apéro. Rudy Cristani, Elodie Yannon et William Pedrini, vous êtes restés avec nous. On va bientôt déguster et boire de bonnes choses. Mais d'abord, on continue avec vous, Julien Strelzik. Vous êtes humoriste. Comment vous êtes venu à vous lancer dans cette carrière de comédien?
Moi, je l'avais toujours dans un coin de ma tête, mais il me fallait fallait que je me forge un peu l'esprit. Donc, je suis devenu commercial, formateur. Après, j'ai vu que je faisais rire dans ces métiers-là. Bah, formateur un peu, parce qu'on est prise de parole en public. Et puis, je voyais que ça se passait bien. Et donc, je me suis lancé à 29 ans seulement. Mais en 9 ans, j'ai fait 1000 spectacles.
1000 spectacles?
Ouais, j'avais besoin de sortir de Moselle.
Bah justement, on vous a lancé un défi que vous avez accepté. C'est de nous jouer un extrait de l'un de vos sketchs en direct.
Très bien, bah c'est parti.
Allez-y, on vous écoute.
Alors le grand truc des Mosellans, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la confusion entre les on et les en. Et pour des Mosellans qui s'expatrient, c'est compliqué parce que moi j'ai un pote qui est devenu prof et il est né à Nilvange, tout près d'ici. Et il est devenu prof et il a été muté tout de suite à Reims. Et quand il a dit le premier jour aux enfants, les enfants mettez-vous en rang. Les enfants se sont pris la main deux par deux. Il a dit non, en rang, il voulait dire en rond. Grosse confusion dans l'école déjà. Et deuxième chose, j'ai joué un spectacle à Gondange. Donc chez nous, on dit Akatoche. Et j'ai croisé un pote d'Akatoche et je lui ai dit, je vais jouer à Akatoche. Est-ce que tu viendras me voir? Il me dit, je peux pas, j'ai le cancer. Alors je lui dis, merde.
Le cancer?
Je lui dis, bah donc soigne-toi et reviens plus fort. Il m'a dit, non, le cancer de Black M et Maître Gims.
Ah, le concert!
Voilà. Et je lui ai dit, je suis encore plus désolé pour toi. Voilà.
Ouais, c'est pas mal. Vous êtes méchant parfois. Votre spécialité, c'est notamment la langue locale, le plat. Quelques exemples.
J'ai un tout petit truc à vous dire, c'est que les Américains nous ont piqué des expressions en Moselle. Par exemple, eux, maintenant, ils disent hi guys, alors que nous, ça fait des décennies qu'on dit hop là guys. Ils disent ouillé, alors que ça vient d'ici, nous, on dit oh yeah. Oh my god, c'est yes Scott. Ça veut dire pareil, oh my god.
Ah, d'accord.
Et puis là, il faut s'accrocher, ça va être un peu plus compliqué pour vous. Quand on fait vaporiser de l'eau sur le visage, on dit spray in the face. Oui. Et nous, en Mosellan, on dit spritz dans la fratze. Voilà, donc c'est quasiment la même chose.
C'est en fait un hommage à votre région. On s'amuse bien, mais c'est un hommage en fait au fond.
Mais
à
oui,
la Moselle.
Mais oui, c'est magnifique. C'est vrai que c'est Danny Boone qui nous a ouvert complètement l'esprit là-dessus, qui nous a décomplexé. Parce que je pense qu'aujourd'hui, le régionalisme peut permettre justement de se connecter partout en France, partout même dans le monde. Puisque quand on croise quelqu'un à l'autre bout du monde et qu'on entend dire Fratz, Spritz, Schmutz, Schmeck, on lui dit vous venez de Moselle, mais il dit mais comment vous savez que je suis de Moselle? Bah, on entend un petit peu quand même. Et on se connecte directement, c'est magnifique.
Cette fierté de votre région, bah, vous l'avez mis sur papier, vous avez publié deux livres.
Oui.
C'est quoi ces livres? Vous les avez apportés avec vous?
On a sorti un petit bouquin qui fait 40 pages.
Expression Mosellane illustrée.
Voilà, on illustre par des photos les expressions principales. Et ce qui a été complètement dingue, c'est qu'on en a vendu 10 000. 10 000 en un an et demi, alors qu'un bouquin qui sort dans toute la France, en moyenne, il fait 3 000 exemplaires. Là, on a vendu 10 000 dans 20 points de vente. Et il y a des Mosellans du monde entier qui l'ont commandé sur Internet et qui m'ont envoyé des messages. J'habite maintenant en Espagne, mais je suis tellement content de l'avoir avec moi. Et c'était incroyable, je pensais pas du tout que ça marcherait autant.
Et vous savez si des non-Mosellans l'ont acheté?
Ah, il y a des non-Mosellans qui l'ont acheté, puis ça s'est passé dans les belles familles. Par exemple, tiens, regarde, à chaque fois tu me chambres et tu comprends pas ce que je dis, tiens, je t'offre le livre et maintenant, si tu veux t'intégrer à la famille, il va falloir tout apprendre par cœur, par exemple.
Alors là, j'ouvre le livre, ne pas confondre avoir de la schneck, manger un schneck et la schneck.
Oui, parce que si on mange un schneck, c'est manger un escargot, mais si on mange une schneck, là, Rudy sait que c'est autre chose. Mais on peut pas en parler sur France Inter.
Non, on n'en parle pas, Rudy. Je vous arrête tout de suite, parce que je sens que vous étiez prêt à démarrer au quart de tour.
Non,
on se calme, Rudy. On est sur France Inter.
C'est vous qui mettez le truc, moi, j'ai rien dit.
Mais j'ai ouvert la page au hasard.
Le plus étonnant aussi pour les non-Lorrains et les non-Mosellans, c'est le entre-midi. Parce que chez nous, on dit, est-ce que tu viens manger avec moi entre-midi? Ailleurs en France, si on s'arrête à entre-midi, tout le monde panique. Qu'est-ce qui se passe entre midi et quoi? Et nous, entre midi, pour nous, ça veut dire entre midi et deux. On a abrégé, on fait plus simple, en fait.
Alors, vous nous l'avez dit, vous avez joué déjà 1000 fois dans les salles.
Ouais.
Vous repartez bientôt en tournée. Comment ça se passe après le Covid-19?
Eh ben, la grosse tristesse de cette année, c'est l'annulation du Festival d'Avignon. J'y avais gagné un prix du meilleur one-man show prix du public l'année dernière. Et là, en tant que Mosellan, pareil, toute la Moselle qui était au courant et qui était ravie. Pour nous, c'est très triste parce qu'il y a beaucoup de spectacles qui sont annulés, mais on espère et on croise les doigts pour que tout se maintienne dès la rentrée. Et donc je vais jouer souvent en Moselle, bientôt à Neuf-Chefs, à Metz une fois par mois.
Quel jour ?
Le 10 octobre à Neuf-Chefs, c'est juste à côté. Et après partout dans toute la France.
Julien, c'est l'heure de l'apéro, il y a à boire et à manger sur la table. Patrick Vichard, vous êtes chocolatier, c'est vous qui nous accueillez devant votre confiserie salon de thé. Quand on regarde votre vitrine, on a vraiment envie de tout manger. Il y a des pâtisseries avec plein... On va pas se gêner après, vous croyez quoi ? Vous ne connaissez pas encore. Des pâtisseries avec plein de crème chantilly, des forêts noires et surtout des chocolats plus appétissants les uns que les autres. Vous nous faites justement découvrir une spécialité qui fait écho à l'histoire de la ville. Oui. Ce sont des chocolats que vous avez appelés les minerais de fer. Est-ce que vous pouvez nous les décrire?
C'est un chocolat qu'on avait rentré une nouvelle matière première qui était très sympathique et on a dit tiens, on serait sympathique de faire un chocolat avec ça. Puis on a élaboré au fur et à mesure la recette.
C'est quoi cette nouvelle matière?
C'était le petit croustillant qu'il y a dedans.
D'accord. Allez-y, servez-vous. Il y en a plein sur la table. Allez-y.
Après, on a essayé plusieurs fois la recette et tout. Et puis bon, on est arrivé à un bon point d'une recette parfaite. Et après, on a dit comment qu'on va pouvoir commercialiser ça et l'appeler. Et moi, étant enfant de mineur, mon épouse étant fille de mineur, parce qu'on est des enfants de la région, moi je suis de Neuf-Chefs, mon épouse est d'Algrange, on a dit tiens, on va rendre hommage à nos anciens, à la vallée de la Fensch, parce que dans le temps ici, c'était qu'un pays où il y avait des mines. D'un côté, c'était les mines, l'autre côté, c'était les usines qui recevaient le minerai quand il avait été extrait. Donc, on l'a appelé le minerai de fer de Hayange, et on le commercialise dans des petits wagonnets qui rappellent les petits wagonnets qui sortent de la mine, à l'époque, qui sortaient le minerai de la mine.
Des wagonnets en chocolat qui sont comestibles.
Tout le chocolat, tout l'ensemble se mange. Le wagonnet et le chocolat.
Rudy Crestani, c'est fou. Comment l'histoire de la mine, la sidérurgie pèse partout, même dans les chocolats.
Je veux vous apporter une précision, vous allez peut-être rire, mais ça s'appelait la minette. Vous voyez, encore une fois, on revient, comme tout à l'heure, à un truc, mais ça s'appelait la minette.
Rudy.
Pardon ? Le minerai de fer, quand il s'appelait la minette de Lorraine.
Il y avait entre 20 et 25% de fer. C'est pour ça qu'après... Tout a fermé, il y a eu des fermetures d'usines à cause de ce fameux minerai qui n'était pas enrichi. Et ils ont fait venir du minerai de Mauritanie, d'Afrique du Sud, ainsi de suite, par des vraquiers. C'est pour ça qu'ils ont aussi, juste pour terminer, ce qui est aussi important, c'est qu'ils ont construit toute la sidérurgie du bord de mer, c'est-à-dire Fos-sur-Mer, Dunkerque, où des vraquiers entiers ramenaient le minerai enrichi. D'accord? Mais c'est ce qui a aussi, malheureusement, l'issue des fermetures est issue du minerai.
Vous avez goûté, vous les connaissez ces chocolats ?
Oui, j'en ai souvent acheté ici. Des petits wagons et des gros wagons, mais pour offrir.
Et c'est bon ou pas ?
C'est très très bon.
Nous, on l'a enrichi avec du beurre de cacao, du chocolat et tout, c'est nouveau, du minerai lorrain enrichi.
Alors, pour accompagner ça, on a besoin de boire. Et là, pour ça, on peut accompagner ces délicieux minerais de fer en chocolat avec de la bonne bière. Bonjour Rico Novet.
Bonjour.
Vous êtes le patron du bar à bière La Bascule, situé en face des Hauts Fourneaux d'Hayange, décidément impossible d'y échapper. C'est une institution ici, La Bascule, à tel point que lorsque vous avez repris l'établissement, vous aviez envisagé de changer le nom de l'établissement pour l'appeler La Vache Folle, mais c'était impossible.
Non, impossible de changer ce nom. De toute façon, on l'aurait appelé éternellement l'anciennement La Bascule.
La Bascule dont vous nous avez parlé, Rudy, c'est ces espèces de balances qui permettaient de peser.
Disons que c'est un bar très, 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 très intéressant et où il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent de gauche. Je ne vais pas dire.
Rico Novet. Rico, qu'est-ce que vous nous proposez comme bière pour accompagner les bons chocolats de Patrick Vichard?
Aujourd'hui, je vous proposais de boire une Imperial Stout qui vient de la brasserie Au Pirod de Nancy.
Oulala, elle est bien foncée, hein, votre bière, là.
Ouais, c'est une Imperial Stout. C'est des nouvelles formules que font les nouveaux brasseurs aujourd'hui.
C'est quoi une Stout ?
Une Stout, c'est une bière brune de tradition anglaise. Et les Imperial Stout ont été créées pour pouvoir exporter ces bières en Russie. Parce que comme il fait très très froid là-bas, ils ont fait donc des bières beaucoup plus fortes qui sont autour de 10 degrés. D'accord. Mais qui accompagnent très très bien le chocolat.
Alors là, raison de plus pour rappeler que évidemment, on consomme tout ça avec modération. Pourquoi ça s'associe bien avec le chocolat, cette bière ?
C'est fait à base de fèves de tonka et ça se marie très bien. Il faut quand même une bière assez puissante pour pouvoir aller sur du chocolat.
Allez-y les amis, hein, n'hésitez pas, ne soyez pas timides, mangez les chocolats, buvez une goutte. Rico Novet, vous avez apporté d'autres bières, cette fois de la région.
Les deux sont de la région. Celle-ci, elle est de Nancy. C'est Opirote qui fait ça. C'est ce que j'appelle les nouveaux brasseurs. Et nous avons aussi à côté la Super Ginette, qui est une bière de Metz, d'une brasserie qui est née à Florange, dans la vallée, qui s'est exportée sur Metz aujourd'hui, mais qui a été créée dans la vallée, qui, je pense, a comme projet de revenir.
Dans votre établissement, votre bar à bière, La Bascule, vous avez combien de variétés de bière?
Aujourd'hui, j'ai en moyenne 180 variétés de bières, mais c'est surtout un renouvellement toutes les semaines de nouvelles bières, parce que je travaille avec des petits brasseurs qui, eux, aujourd'hui, ont une gamme très, très vivante. C'est-à-dire que chaque brassin est une nouvelle bière et c'est totalement différent des autres brasseurs qui, eux, font toujours la même bière, style Heineken, qui vont sortir une dizaine de bières et toujours la même chose.
En tout cas, vous voulez mettre en avant les producteurs d'ici, les brasseurs d'ici.
Ah oui, quand je vends une bière de chez Opiro, je vends une bière de Julien, Lucas et Richard, quoi.
C'est vos copains, c'est vos potes.
C'est la famille, c'est des gens qu'on connaît, c'est des humains. Et je préfère vendre une bière de quelqu'un que je connais que d'une industrie où il n'y a rien, quoi.
William Pedrini, c'est bon ou pas le chocolat et la bière?
Ah, ça couvre bien le goût du chocolat.
Julien Strelzi, comment on dit boire un coup?
On dit boire un schluck.
Un schluck.
Boire un schluck, ouais.
Et comment on dit à la vôtre?
La vôtre, on dit Prost. Ou alors on dit santé, tout simplement.
Hein. Rudy?
Pas vraiment. Chin? Oui. Ouais, chin aussi.
Chin.
Chin? Tout simplement.
Ouais.
Merci à tous. Cette émission était réalisée par Violaine Ballet. Irène Menahem et Thomas Lehété m'ont aidé à la préparer. Vous êtes très précieux tous les deux. À la technique, Sandrine Malon, Jérémy Tuil, Pascal Bresse, Guillaume Rialan. À Paris, Tristan Gratalon. Merci à toi. Merci à Yange. Merci à tous. Demain, vous retrouvez Orlys Fez à Feltin dans la Creuse. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur le site franceinter.fr.